Bien, bonjour. Je ne vais pas commencer trop en retard parce que je crois que le programme est plutôt serré et que je n'ai qu'une heure. C'est beaucoup. Si j'ai fini assez tôt, enfin, c'est-à-dire une dizaine de minutes avant la fin de ce qui m'est imparti, j'espère qu'on aura un échange. Et si malheureusement je crains d'être aussi long que je risque de l'être, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, je voudrais commencer par remercier Santiago et Björn qui m'ont invité à faire cette conférence sur la traduction de l'humour. J'avais au départ une traduction sur l'humour et je me suis rendu compte que la question de la traduction de l'humour était beaucoup plus complexe que ce que je pensais au départ, même si je m'y attendais un peu. Ça me fait toujours penser de faire des conférences sur l'humour à des situations, vous savez, comme dans le dessin de Wolinski où un homme rentre chez lui et sa femme l'attend et elle lui dit « Étonnez-moi, Georges ». Elle attend beaucoup et elle est forcément déçue. Alors c'est vers ça qu'on va. Et entre deux diapos, j'ai prévu de vous présenter une grenouille qui correspond à celle de Mark Twain, puisque comme chacun sait, quand on parle de l'humour et qu'on veut l'expliquer, c'est comme une dissection de grenouille qu'à la fin, elle est morte. Cette phrase est connue, mais je l'aime bien. Voilà. Et à la fin, je vous présenterai une grenouille morte pour montrer que je suis parfaitement arrivé à mon projet. Je vais commencer par un SMS qui date d'hier et qui est un échange avec une amie à qui je dis donc j'espère qu'elle sera à Arles. Et elle répond non, je n'y serai pas, mais j'adore Arles. Et je lui dis donc l'Arlésienne parfaite, tiens, voilà un truc intraduisible. Et effectivement, je pense que non seulement c'est intraduisible, mais même que pour vous, l'Arlésienne ne rappelle rien. C'est-à-dire que c'est une nouvelle d'Alphonse Daudet dans laquelle l'Arlésienne est toujours absente. On parle beaucoup d'elle, à cause d'elle, un homme se suicide, mais elle est absente et je crois même qu'il y a un opéra qui a été fait après. Bon, tout ceci n'est pas l'introduction. Voici l'introduction.
A scribbler, writer of jokes. In a few moments, he will have written the funniest joke in the world. And, as a consequence, he will die laughing.
Bon, il meurt. Voici donc la suite de l'histoire et qui a un rapport direct avec la question de la traduction.
All through the winter of 43, we had translators working in joke-proof conditions to try and produce a German version of the joke. They worked on one word each for greater safety. One of them saw two words of the joke and spent several weeks in hospital. But apart from that, things went pretty quickly. And we soon had the joke by January in a form which our troops couldn't understand, but which the Germans could.
So on July the 8th, 1944, the joke was first told to the enemy in the Ardennes. It was a fantastic success, over 60,000 times as powerful as Britain's great pre-war joke, and one which Hitler just couldn't match.
Insbesondere, keine Mehrzahl in Deutschland leben wird. Wir sind des Reiches junge Mannschaft, eure Schule.
Voilà. Bon, c'est la règle absolue. Toujours commencer une conférence sur l'humour avec Hitler. Comme ça, le point Godwin est toujours atteint et c'est bon. Alors, vous avez dû remarquer que la meilleure blague d'avant-guerre, c'est Neville Chamberlain qui présente les accords de Munich Et effectivement, c'est une très bonne blague. Alors, pour ceux qui veulent connaître la fin du sketch, à la fin, la blague est enterrée sous un monument avec marqué « La blague inconnue ». Bien. Alors, maintenant, je vais un petit peu... J'aurai plusieurs extraits vidéo à vous présenter, parce que souvent, dans la question de la traduction, se pose aussi la traduction des textes dits oralement et des sous-titres, donc on en verra certains. Et je vais un peu parler de la littérature et de l'humour. Et je vais d'abord commencer par une question de définition. Pour la littérature, ça va être rapide. Je vais la définir comme étant simplement un acte volontaire d'écriture à but non pratique. C'est-à-dire que ça élimine les modes d'emploi, sauf la vie mode d'emploi. Ça élimine les recettes de cuisine, sauf peut-être la cuisine cannibale de Topor. Et puis, ça élimine aussi toute une série de choses, les horaires de train. Pour l'humour, c'est plus compliqué. C'est ce que Daninos, je crois, appelait... le calvaire des définisseurs. Mais avant de parler de l'humour, je parlerai aussi de la question du rire et du comique et du satirique. L'humour, c'est un homme qui s'appelle Robert Escarpi, qui, je crois bien, a fait un que sais-je sur l'humour. Je suis même sûr qu'il a fait un que sais-je sur l'humour. Et qui tenait un billet quotidien dans Le Monde, ce que j'ai eu le privilège de faire moi aussi pendant 10 ans ou 15 ans, 15 ans. Et dans son livre sur l'humour, il disait que c'était d'abord un art d'exister. Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler, de manière à voir comment ça évolue au cours du 19e et du 20e siècle, pour passer du statut du satirique et du comique à une notion plus existentielle. Donc d'abord, le rire m'intéresse dans le sens où, comme vous le savez, c'est le propre de l'homme, mais enfin, ce n'est pas tellement vrai, puisque les bonobos, qui sont de magnifiques chimpanzés, savent rire. Disons que la théorisation du rire, en tant que telle, date pour nous, positiviste cartésien, de Bergson. Et il le définit d'ailleurs comme une forme qui est toujours aux dépens d'un tiers. C'est-à-dire que vous avez pu voir hier une conférence dans laquelle un homme courait et tombait. J'ai malheureusement pas pu la voir. Et c'est une assez bonne définition de cette situation dans laquelle un homme tombe. Voilà, je vous passe un extrait du petit Nicolas. Monsieur Bordenave avait l'air vraiment fâché. Il est venu en courant vers nous, mais il n'est pas arrivé parce qu'il est glissé sur la sandwich à la confiture d'Alceste. Voilà. Bien, donc on voit que ce qui est intéressant là, c'est qu'on a finalement quelque chose qu'on observe assez souvent dans la fonction du rire. C'est-à-dire qu'on assiste à une modification d'une position où on passe de la raideur absolue d'un personnage à une sorte de brisure de cette raideur, ce qui fait qu'on en rit. Voilà, c'est ce qu'on a, je crois que c'est ce qu'a très bien montré hier à l'ouverture, cette façon dont on avait de rire spontanément d'une situation de brisure. Et pour parler d'Alceste, un autre personnage de la littérature française est très raide et il s'appelle aussi Alceste, et c'est le misanthrope. Et le misanthrope est aussi un personnage extrêmement raide, mais sa rigidité, elle, n'est pas physique. C'est une rigidité morale, une rigidité psychologique, une inflexibilité. Et finalement, s'il est comique, c'est parce qu'il est réactionnaire. C'est parce qu'il est finalement réactionnaire, étant d'ailleurs pas forcément une notion négative, hein, c'est devenu une notion négative, mais réactionnaire par rapport à l'évolution des mœurs dans une société qui pouvait être parfaitement conçue comme ridicule. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Jean-Jacques Rousseau n'aime pas du tout le misanthrope de Molière. Il considère que c'est au contraire un personnage qui est un personnage positif, un homme de bien qui déteste les mœurs de son époque et la méchanceté de ses contemporains. Donc on voit que cette position, qui est une position finalement de rejet du rire, qui est perçue comme spontanée parce qu'il vient d'une humiliation, n'est pas forcément une position, acceptable, elle peut même être considérée comme répréhensible, puisqu'on rit de quelqu'un qui est en situation de faiblesse, et c'est pas très joli. Voilà. Et les rigoristes chrétiens, comme par exemple Thomas Hobbes, mais pas que lui, hein, sont des sortes de pères sévères qui, à un moment donné, confrontés à l'évolution du rire dans la société, la rejettent et la détestent. Baudelaire lui-même, d'ailleurs, si vous regardez le poème « L'Albatros », parce que Baudelaire n'est pas un grand jouisseur, hein, faut bien le dire, c'est pas un grand rigolo. C'est un grand poète, je ne le conteste pas, mais du strict point de vue du type à fréquenter tous les soirs, ça devait pas être un idéal, quoi. Quand il écrit « Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid », on voit que le comique de Baudelaire est un comique de ridicule et un comique d'humiliation, puisque les hommes d'équipage le moquent, etc. Donc cette question m'intéresse de ce point de vue-là. Alors, ce qui positionne finalement le raisonnement de Bergson comme un raisonnement relativement moderne, dans le sens où il donne une philosophie de la liberté au rire, ça vient s'opposer au positivisme de Comte à la même époque, puisque dire que le rire est positif, ça veut dire que c'est une source de liberté. C'est-à-dire que la vie est considérée comme une source permanente qui jaillit, et que le rire intervient comme une rupture dans ce jaillissement, une rupture positive dans ce jaillissement. C'est même une vertu cardinale, mais qui exige ce qu'il va appeler une anesthésie du cœur. Parce qu'au moment où quelqu'un tombe, qu'on rit, on n'est pas très sympa. Voilà. Mais cette anesthésie est perçue comme quelque chose de positif, puisque justement, elle intervient en nous coupant de la sensibilité. Le rire n'est pas civilisé, et le rire n'est pas moral. Voilà, c'est très bien qu'il soit ni civilisé ni moral. Et ça l'oppose d'une certaine manière à... ça le rapproche, pardon, à deux faces antérieures du rire, qui sont le satirique et le comique. Le comique pur que vous connaissez, la farce, le burlesque, où on se moque de quelqu'un, où c'est carrément l'attaque au faciès. Vous trouvez ça dans quasiment toutes les pièces d'Aristophane, dans toutes les pièces de Molière. Et je vous montre juste un tout petit exemple, également tiré du Petit Nicolas. Papa et Monsieur Blédur ont tiré au sort, et c'est Monsieur Blédur qui est parti en premier. Comme c'est vrai qu'il est assez gros, on ne le voyait presque pas le vélo, et les gens qui passaient dans la rue se retournaient en rigolant pour le regarder, virgule, Monsieur Blédur. Voilà. Donc là, c'est clairement une moquerie. Ça n'est pas grave de se moquer. C'est un petit peu ce que raconte la chose. La satire est une deuxième forme, c'est dans laquelle on se moque de la société telle qu'elle est, ses différences, évidemment, mais c'est Horace, ça va être forcément Molière, mais ça va être aussi le dictateur de Chaplin, ou simplement Borat, hein, de Sacha Baron Cohen, qui appartient à cet univers de la satire. Ce qui m'intéresse dans l'arrivée de la déformation vers l'humour, de déplacement lentement vers l'humour, c'est que c'est le 19e qui finalement est le moment de basculement. C'est un moment d'émergence de la bourgeoisie comme classe dominante, et elle déteste le rire. Elle déteste le rire qu'elle considère comme vulgaire, même si elle se presse aux opérettes d'Offenbach, même si elle va aller voir Courteline. Elle ne considère néanmoins pas que ce type d'univers est un univers digne. Il n'y a pas d'ailleurs à cette époque de considération pour la drôlerie, même si évidemment chez Hugo on trouve de la drôlerie, même si Balzac n'hésite pas à être drôle. Ce n'est pas néanmoins leur fait caractéristique. Un auteur fondateur, à mon avis, du 19e et du rire moderne, qui est Alphonse Allais, n'est pas enseigné. Il est toujours considéré comme indigne de l'être, alors que du strict point de vue de ce qu'il invente, il y a des choses absolument extraordinaires. Je vous conseille de lire un petit Mille et une nuits fait par François Caradec, qui était une sorte de recueil d'Alphonse Allais. Et je recommande de lire la nouvelle qui s'appelle « Les Templiers », pour comprendre à quel point une nouvelle comme Les Templiers est une, dont je ne parlerai pas parce qu'elle ne pose pas de problème de traduction en soi, est une nouvelle absolument fondatrice du rire qu'on peut appeler moderne. Voilà. Mais si fondamentalement elle déteste le rire, c'est qu'elle déteste le corps en général. Elle déteste le corps, c'est une continuité par rapport à Thomas Hobbes et autres persévères, comme je le disais. Elle déteste le corps, et en détestant le corps, elle déteste forcément tout ce qui est lié au corps, tout ce qui est lié à l'expression des sudations, donc littéralement de l'humeur. Hein. Elle déteste le corps, qui est un corps qui va jouir, qui va rire, qui va bouger. Et il y a une même détestation et un même rejet de tout ce qui va toucher à la littérature érotique, à la littérature fantastique, à la littérature qui fait peur, celle qui fait dresser les poils, en gros. Et donc le rire fait partie de ce rejet. Et puis peu à peu, le rire devient le rire qu'on va connaître, c'est-à-dire le rire qui se rit aussi de lui-même, dans lequel on fait dans le tableau. Et il y a une très jolie phrase qui est de Otto Julius Bierbaum, qui est, je le dis en allemand parce que je sais le dire en allemand, j'en profite, c'est « Humor ist wenn man trotzdem lacht », donc l'humour c'est quand on rit quand même. C'est une très jolie définition de ce qui se passe à ce moment-là. C'est il y a une sorte de tristesse à rire. Mais cette tristesse à rire, c'est une tristesse intéressante. C'est une tristesse qui va nous apporter quelque chose, puisque d'un seul coup, on va se mettre dans le tableau. Et c'est quelque chose qui arrive vraiment au moment du 19e. C'est vrai qu'avant, bon, on trouve déjà ça chez Martial, on peut trouver des... Mais cette systématisation de la capacité qu'on a à se projeter dans le tableau est une chose nouvelle. Jules Renard va dire une phrase qui est assez jolie également pour définir l'humour et l'humoriste. Et l'humoriste, c'est quelqu'un qui est de bonne mauvaise humeur. Et c'est aussi une assez bonne définition, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit dans le monde des raisons à la fois de se réjouir et de se mettre en colère. Et cette alliance des deux, qui est ancienne, se formalise vraiment à cette période-là. C'est une sorte de triomphe du moi et en même temps une sorte de négation du même moi. Et pour ceci, j'ai également un exemple tiré du petit Nicolas. Je n'ai qu'un livre chez moi, c'est celui-là. Il me sert à tout. Hein. Vous savez, dans les livres, c'est ma Bible. Voilà. Alors, donc, si tu ne veux pas rester en retenue hagnant, a crié la maîtresse, je te prierai de garder tes réflexions pour toi. Je sais que vous savez rire, mais comme c'est enregistré en radio, je fais des petits efforts de lecture. Hagnant s'est mise à pleurer. Vilain cafard, a crié quelqu'un, mais la maîtresse n'a pas su qui c'était, sinon j'aurais été puni. Voilà. Alors, ce qui est évidemment neuf dans cette affaire, c'est la complicité qui s'établit entre le lecteur. Enfin, c'est une complicité qui date de bien avant. Hein. Justement, on a ça chez Allais, vous regarderez les Templiers, une fois de plus, ça c'est du teasing. On trouve ça forcément, bien sûr, avant, cette idée de complicité entre le lecteur et ce pacte quoi, qui est passé. Mais dans le petit Nicolas, c'est assez présent également. Donc, cette forme de rire, cette désespérance finalement qui est celle de l'humour, qui rit de tout, qui trace du monde un portrait où il s'inclut, c'est assez nouveau et c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque de bonne mauvaise humeur, ça dit quelque chose, ça dit que l'impuissance et la distance pourraient construire un homme qui va directement soit à la prison, soit à la folie. L'humour permet d'aller ni vers la prison, ni vers la folie puisqu'il conserve une sorte d'empathie, quelque chose qui est neuf et c'est ce que dit assez joliment Horace Walpole, qui est un bon auteur, comme dirait l'autre, qui est que le monde est une comédie pour ceux qui pensent et une tragédie pour ceux qui sentent. Et c'est une phrase, il ajoute, c'est pour ça que Démocrite rit et que Héraclite pleure. Voilà. Alors cette idée est assez forte, c'est-à-dire que c'est l'idée que l'homme qui fait de l'humour propose de penser pour que sentir soit moins douloureux. C'est l'idée générale de l'humoriste, c'est l'idée qu'on passe d'un moment de sensation à un moment de réflexion qui permet de passer au-dessus de la douleur du monde. Et la présence de ce comique n'impose pas pour autant d'exclure, de cet humour, n'impose pas de l'exclure hors du champ du comique, puisque même s'il y a de la tragédie, ça reste une tragédie comique. Et le XXe siècle va donc devenir le lieu de cette interprétation, de cette interpénétration, pardon, du tragique et du tragique et du comique. C'est bien sûr annoncé par Flaubert, c'est annoncé par Anders Behr, c'est annoncé par plein de gens, mais c'est vraiment ce moment-là, et c'est à partir du XXe siècle qu'on aura le droit de citer pour une littérature humoristique, avec des gens comme Camille, avec des auteurs comme même Pierre Dac, qui vont commencer à émerger à cette époque-là. Et je ne parle pas de Vian, même si Vian a été très longtemps rejeté par l'Académie, il est maintenant en Pléiade, ce qui lui donne quand même sa dignité. Mais néanmoins, même s'il y a cette pénétration du rire et de l'humour dans la littérature, il ne faut pas oublier que cette notion d'humour littéraire est toujours relativement mal vue. C'est-à-dire que très tardivement, y compris dans des récentes années, on a des auteurs assez dignes qui considèrent que l'humour n'a pas sa place dans la littérature. Je pense à Tahar Ben Jaloun qui dit que, par exemple, la poésie ne peut pas se permettre l'humour. Je trouve ça... Enfin, et en plus, je l'ai entendu le dire plusieurs fois. Ça m'étonne parce que je sais qu'il aime beaucoup Mahmoud Darwish et que chez Mahmoud Darwish, il y a de l'humour et même Darwish s'en revendique. Voilà, donc c'est un peu plus qu'une distance, l'humour, c'est aussi une perturbation. Et cette perturbation, et là vous voyez que j'arrive très doucement vers la langue, c'est une perturbation de la langue. Et on va commencer à en voir pas mal, parce que je ne vais pas rester uniquement à vous parler comme ça pendant longtemps. La forme que prend l'humour finalement dans la langue, c'est une forme qui est celle de la syllepse. Vous savez, ce sont des règles grammaticales qui jouent contre le sens figuré et concret d'un mot. Et donc l'humour, c'est une sorte de syllepse généralisée où quelque chose vient perturber la notion même de compréhension du mot. Quand il définit le vice, Freud prend l'exemple du condamné à mort qui se lève le matin, on vient de le réveiller, on lui dit c'est l'heure. Il se lève et il se cogne la tête contre le chambranle de sa paillasse et il fait « la journée commence mal ». Voilà. Bon, on voit bien que dans ce contexte, c'est traduisible dans toutes les langues, il n'y a aucun problème, mais il faut cette notion de distance qui est présente dans la langue, en général, pour l'exprimer. Je pense aussi à Camille, qui cet humoriste dont je parlais, qui perd une jambe pendant la guerre et qui dit « ça va, c'est bon, je n'ai plus qu'un pied dans la tombe ». Et donc ça aussi, ça n'est possible que si l'expression existe, que si c'est présent dans la langue et que si on peut en faire quelque chose. On ne peut pas tout le temps faire ça et il y a donc des limites à la chose. Voilà. Je voulais essayer de piquer sur le site de l'INA un moment de rencontre entre Claude Agège et Raymond Devos chez Pivot il y a des années où ils se lamentent parce que l'humour n'est pas traduisible. Bien. Et c'est vrai que ça ne l'est pas toujours. Voilà. Et je conclue par la formule habituelle, Monsieur Cambronne. Là, on voit que le problème est culturel. C'est-à-dire que pour nous, le mot de Cambronne, c'est clair. Si vous le traduisez ça en hindi ou en chinois, on a une complexité réelle de restitution de l'humour de cette blague. Je présenterai quelques petites blagues de Étienne Lecroix, qui est un ami. Il faut toujours présenter les amis dans les... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un linguiste qui s'appelle Léo Hickey. Je voulais retrouver son texte dans un moteur de recherche et j'ai découvert que c'était le nom d'un pédophile canadien et que Léo Hickey était beaucoup plus connu comme pédophile que son homonyme Léo Hickey, l'humoriste. Et bon, j'ai donc du mal à retrouver parce que j'étais sous une avalanche de références pédophiliques. Et j'ai enfin trouvé la phrase. Et il dit donc « Il est connu que l'humour voyage mal, qu'il a tendance à se faner dans le chemin le plus court, arrivant défait, sinon mort, à destination en passant d'une langue à l'autre. » Alors, la pratique courante, évidemment, consiste à penser que si la traduction doit être fidèle aux mots, à leur sens, à leur contenu, à leur intention, à l'effet d'un texte, là, on est un peu mort. C'est-à-dire qu'on a une difficulté à faire passer à travers le chat de l'aiguille du texte, l'humour qu'il peut y avoir dans un texte, on perd la quasi-totalité. Mais enfin, penser que l'humour est intraduisible, c'est un peu compliqué, et donc il est temps que je vous raconte maintenant une blague intraduisible qui porte sur la traduction, que quand on raconte une blague dans une salle de 200 personnes, il y en a au moins 50 qui la connaissent, et donc on sait qu'on en fait pas rire 50, mais on peut courir le risque que les autres ne la connaissent pas. Et quand ce sont des traducteurs, je pense qu'ils les connaissent tous, et donc on prend un risque de faire rire une personne, c'est quelqu'un, je demanderais à cette personne de rire plus fort que toutes les autres. Voilà. Et donc c'est un type qui veut apprendre l'anglais et qui trouve les tarifs extrêmement chers. Et comme il trouve les tarifs extrêmement chers, il fait toutes les petites annonces, finalement il trouve un truc qui vaut 5 euros de l'heure. Il se dit ça vaut vraiment la peine, il appelle, le mec lui dit oui, venez à tel endroit, le type arrive, il trouve un immeuble assez délabré, il monte au 5e étage, il frappe à la porte, puis un type qui lui ouvre... Il est en chaussettes avec une sorte de vieux peignoir. Et il lui dit, c'est quand même pas ici pour les cours d'anglais. Le type le regarde, il fait, if, between. Bien. Alors, ça, c'est une blague qui est uniquement pour les Français et uniquement pour les Français qui parlent anglais. Bien. Ça, c'est de l'humour qu'on peut considérer comme l'humour involontaire. C'est l'humour involontaire de Nicolas Sarkozy qui dit « Sorry for the time » en montrant les nuages. C'est l'humour d'Emmanuel Macron qui dit « Your wife is delicious » au Premier ministre anglais, ce qui laisse supposer qu'il l'a goûté. Et donc, voilà, il y a une difficulté forcément dans la traduction. Alors, la traduction, difficile à traduire, c'est par exemple... Rivarol qui croise Louis XVI, et Louis XVI lui dit « Rivarol, faites une plaisanterie à mon sujet. » Rivarol lui répond « Sire, le roi n'est pas un sujet. » Elle est très jolie, elle est traduisible dans pas mal de langues, mais celle-ci non. Et c'est la même blague. Bien. Il y a aussi celle-là, qui n'est pas très traduisible, que j'aime beaucoup, qui est donc un neutron qui rentre dans un bar et qui dit « Combien pour une bière ?» Et le barman lui répond « For you, no charge. » Voilà. Bon, j'aime beaucoup les blagues avec des neutrons, parce que on parle toujours à des milliards de milliards de milliards de neutrons devant soi, donc forcément, il y en a au moins un qui rigole quelque part. Et puis, il y a des moments donc, où on peut espérer quand même rendre l'humour d'un texte. Ce que je veux dire, c'est qu'un traducteur, ça c'est une autre blague de Neutron, et celle-là est assez traduisible. Il ne faut pas s'en faire qu'une blague ne soit pas forcément traduisible dans toutes les langues, parfois elle est dans une autre langue. C'est une question de contexte. Pour passer d'une texte source à une texte cible, il n'y a pas parfois de besoin de substitution de quelconque. Parfois, c'est mieux dans une langue que dans une autre. Voilà. Moi, je trouve ça mieux comme ça que comme ça. Mais c'est juste parce que, évidemment, l'anglais est infiniment plus court. On n'a pas tous ces compléments de noms absurdes. Mais elle est bien, hein, celle-là. Puis, elle besoin de rien, quoi. Voilà. Mais il y en a plus graphique, hein, compréhensible dans toutes les langues. Et inutile d'insister, on n'arrivera à rien comme ça. C'est ce qu'on appelle une blague spéciste. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est une blague raciste. Mais bon, les pingouins, il n'y en a pas dans la salle, donc je ne vais pas avoir une manifestation de pingouins. Mais on est limite quand même dans du spécisme. Et donc, voilà, on n'est pas très politiquement correct. Pour rester dans la bande dessinée, parce que j'aime bien la bande dessinée, puis j'ai beaucoup d'amis qui en font, je vais vous montrer une bande dessinée dans laquelle l'humour est conservé, mais totalement déplacé. Alors, il s'agit d'une bande dessinée d'un ami qui s'appelle Rudy Spessert, et qui, Rudy Spessert, dans sa bande, s'appelle Naguère les étoiles. Elle est traduite par Space Warped en anglais. Et dans d'autres langues, elle est traduite, mais je ne sais pas du tout le dire en néerlandais, donc je ne me lance pas. Et donc voici ce que disent les trois cases. « Battons-nous, ô mon cher maître. D'accord, mais mollo au début, je suis un peu rouillé. En garde. » Traduction. On ne peut peut-être pas bien lire, mais ce n'est pas assez fort, mais je vous le dis en anglais. C'est « I'm going to get so much revenge on you. » Ça, c'est ce que dit le méchant. Enfin, le méchant, celui qui est en noir. C'est un code. Voilà. Puis on le reconnaît quand même, il est assez proche de Dark Vador. Et l'autre lui répond, « Seriously, have you thought on going to a therapist? It'll help. » Donc voilà. On voit bien que la case a été remplacée par, le texte de la case et de la bulle a été complètement remplacé par autre chose. Ça marche quand même. On passe d'une situation d'humour zimolo au début, à un truc qui est plus proche de ce que les Anglais appellent l'anger management, c'est-à-dire que la gestion de la colère, quelque chose pour lequel un thérapeute peut beaucoup aider, ce qui fait que quand vous vous faites virer de votre boîte, ce n'est pas la faute du patron, c'est parce que vous vivez mal votre licenciement. Excusez-moi, c'est une remarque personnelle sur la lutte des classes aux États-Unis. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer vraiment dans la question de la traduction littéraire. Et en particulier, je voudrais vous présenter un texte qui m'a l'air un peu compliqué à traduire. Deux textes assez compliqués à traduire. Le premier, c'est un texte de Pierre Dac. Le soir tombait. Il tombait bien d'ailleurs. Et juste à pic, pour remplacer le jour dont le rapide déclin laissait à penser qu'il ne passerait pas la nuit. J'aurais pu vous demander de prendre une petite feuille à l'entrée et d'essayer de le traduire en anglais en respectant l'humour. Et la deuxième est pas mal. Alors, je ne sais pas de qui elle est. Je ne sais pas si elle est de Russell, de Hogwood, de Carnegie ou de Winston Churchill. War is not about who's right, but about who's left. Elle est vachement bien, mais c'est assez compliqué. Bon. Et donc maintenant, on va passer à des traductions. Et je voudrais travailler sur un auteur que je connais bien et que j'aime bien, qui est Raymond Queneau. Et je voudrais vous proposer, vous savez que dans Raymond Queneau, il y a quand même une petite difficulté sur les textes, c'est que souvent, et en particulier dans Les Fleurs Bleues, c'est pas facile à traduire. Alors il y a deux traductions qui m'intéressent et qu'on va regarder, celle de Barbara Wright et celle de Italo Calvino. Les Fleurs Bleues ont été traduites dans les années 60 par ces deux auteurs. Voilà. Je suis le roi du PowerPoint, hein. Franchement. Je ne sais pas pour me vanter, j'ai passé des heures à le faire. Bon. Sur les bords du rue voisin, campaient deux uns. Non loin d'eux, un Gaulois, et du un peut-être, trempait audacieusement ses pieds dans l'eau courante et fraîche. Sur l'horizon se dessinaient les silhouettes molles de Romains fatigués, de Sarrasins de Corinthe, de Francs anciens, ça les moins de 60 ans ne peuvent pas comprendre, d'Alain seul, quelques Normands buvaient du Calva. Traduction d'Italo Calvino. Alors je ne parle pas italien, mais je peux vous dire qu'il y a des blagues. parce que je les ai vus. Alors, 2-1, uno no o due, pas mal. Di qualche diritto romano, donc il remplace finalement les Romains fatigués par l'idée du droit romain. Gran Saraceno, ça c'est les grains de... Voilà, Gran Saraceno. Vecchio Franco, il ne traduit pas, il considère qu'à l'époque c'est bon, on connaît. Ignoto Vandalo, qui va remplacer d'Alain Seul. Alors Alain Seul, le jeu de mots est vraiment lourd et intraduisible. Voilà. Et quelques Normands buvaient du Calva, pas de problème. Il y a moins de problèmes en italien que pour les Anglais, bien sûr, parce qu'on change forcément de racine de langue, de famille. Et là, elle est beaucoup moins à l'aise. Et elle en case quelques-uns quand même. Elle traduit littéralement. Romain fatigué devient Tired Romans. Never Norsemen, Old Franks, and Christmas Carol. Ah, ça, c'est pas mal. Christmas Carol, Indians. Vous voyez ? Ça, c'est pas mal. Alors, dans ce roman de Queneau, il y a un autre passage où on est, disons, sur l'épuisement de la polysémie d'un verbe. C'est juste après. Il ne bâtit pas sa femme parce que défunte, mais il bâtit ses filles au nombre de 3. Il bâtit des serviteurs, des servantes, des tapis, quelques fers encore chauds, la campagne, monnaie, et en fin de compte, ses flancs. Bon, en italien, ça va, parce que fondamentalement, les mêmes expressions existent dans les deux langues. On dit battre monnaie, on dit, voilà. Mais au lieu de battre ses flancs, ça devient la testa nel muro, parce qu'on ne dit pas battre ses flancs. Et donc, Calvino respecte très, très bien le sens général, enfin le projet sur cette phrase. Il y arrive très bien. Barbara Wright est moins à l'aise avec cette situation, parce que le mot « battre » ne fonctionne pas dans tous les cas. Donc on ne peut pas dire, comme on le disait en italien, on ne peut pas dire « picchio », mais il faut dire « beat », puis ensuite il faut dire « struck ». Ce n'est pas facile, quoi. Et à la fin, « he cudgels his brains », je ne connaissais même pas cette expression. Donc on voit que là, il y a un vrai problème qui est lié à l'humour de Queneau, qui fonctionne très bien dans la langue française, mais qui nous fait forcément sortir du contexte en tant que tel. J'ai très peu traduit dans ma vie, mais j'ai traduit un texte que je vais vous présenter parce qu'il est court, et je peux dire que j'ai traduit Hamlet. Alors, il s'agit en fait de Hamlet for Skinheads de Richard Curtis. Richard Curtis est un cinéaste qui est le scénariste de 4 mariages et un enterrement, et c'est aussi le réalisateur de Love Absolutely ou de Good Morning England, enfin des comédies romantiques anglaises, dont je suis particulièrement extrêmement friand. Je pleure tout le temps et j'aime ça. Et donc, il a écrit Hamlet for Skinheads, qui est une réduction de Hamlet au vocabulaire du skinhead, ce qui permet que la scène 1 de l'acte 1 soit relativement courte, et je vous la présente dans son intégralité. Oh, marche ! Dit le fantôme. Hamlet répond « Yeah ». Le fantôme répond « I was fucked ». Il sort et Hamlet fait « Oh, fuck ». J'ai donc traduit. La mauvaise mise en page est due à un passage à PowerPoint. Je travaillais sur Keynote. Donc ça donne « Ouah, putain ». Parce qu'en fait, en français, le mot « fuck » se traduit par « putain ». Très souvent, très souvent. Hamlet, c'est quoi ? Le spectre, je me suis fait niquer. Il sort et Hamlet répond « ouah, putain ». Scène 1, acte 1. Scène 2, acte 2. Scène 1, acte 2. Je ne vous ferai pas toute la pièce, je vous ferai juste les deux premières scènes. Donc, le roi Claudius entre avec Gertrude et Hamlet, ainsi que la cour. Claudius, oh you Hamlet, give over. Hamlet, fuck off, won't you? Ils sortent. Hamlet reste seul. They could have fucking waiting. Enter Horatio. Oh, what your cock? Way. Donc, ouah putain Hamlet, ta gueule. Nick Taras. Ils sortent. Putain, ils auraient pu m'attendre. Horatio. Alors Horatio, je tiens à dire que cette traduction de « Watch a cock », j'ai eu du mal à trouver. Mais en fait, c'est Salut ma bite. Enfin, il y a d'autres options, comme toujours, mais elle est pas mal. Elle rend à peu près la notion de coq, et voilà. Et l'autre lui répond salut, ce qui est finalement l'élément le plus propre de toute la sienne. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est évidemment la dimension de l'adaptation, la grande richesse sémantique du F-word en anglais. Et d'ailleurs, si vous avez vu Quatre mariages et un enterrement, vous remarquerez que le début de Quatre mariages et un enterrement, le mot fuck est prononcé à peu près 10 fois pendant les 10 premières minutes. Ce qui fait que Richard Curtis est un grand spécialiste de ce mot, et moi aussi maintenant. Mais il y a un deuxième moment qui m'intéresse dans la traduction du mot fuck, c'est la polysémie de ce mot en anglais. Je vous présente juste un tout petit bout d'une série que peut-être vous avez vue qui s'appelle The Wire. Et dans The Wire, il y a un moment d'anthologie dont je ne vous présenterai pas la totalité parce qu'il dure 10 minutes. Mais dans ce moment, le mot fuck est présenté, je pense, 70 fois. Il n'y a que ça qui est dit d'ailleurs. Et nous allons voir un tout petit bout.
It's the one, huh?
Yep. Hasn't been managed since.
Ah.
Oh, fuck. Motherfucker.
Bon, c'est riche.
Fuck. Fuck, fuck, fuck.
C'est un privilège de pouvoir faire une conférence où quelqu'un dit fuck pendant un quart d'heure. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Encore un dernier.
Fuck.
Alors, l'adaptation, c'est aussi la possibilité, évidemment, de restituer l'humour à travers ce qu'on peut appeler du paratexte. C'est-à-dire que ce n'est pas le texte lui-même, mais c'est quelque chose qui joue quelque chose dans l'humour du texte. Et là, j'ai décidé de vous prendre juste l'exemple de la traduction en anglais des personnages d'Astérix et Obélix. Et de regarder comment fonctionne l'humour dans ce cas-là. Bon, Dogmatix, pour le chien. Pas de problème, c'est très bonne idée. Pour Panoramix, Get a Fix, c'est assez bien vu également. Vital Statistics pour Abracoursix, oui. Geriatrix, bon, c'est pas très sympa pour AG Canonix, mais c'est vrai. D'ailleurs, toute ma vie, j'ai dit AG Canonix, alors que c'est AG Canonix, c'est bien. Assurance Tourix, le Bard, Cacophonix, bien. Ordre Alphabetix, qui est, je vous rappelle, le poissonnier, à deux traductions, et là, franchement, pourquoi ? Une en américain, Epidemix, avec deux M, je sais, et une Unhygienix en anglais. Bon, et surtout, fascinant, Yellow Submarine, qui est la femme d'Ordre Alphabetix, donc du poissonnier, n'est pas traduit par Yellow Submarine en anglais, alors que, franchement, je ne vois pas où est le problème, mais non, elle est traduite par Bacteria. Et c'est pas mal, mais bon, on perd le sous-marin quand même, largement. Bien. Sur la question des patronymes, je voudrais vous faire écouter aussi deux courts extraits d'un sketch de Rowan Atkinson. Alors, Rowan Atkinson, pour ceux qui connaissent la BBC, c'est Mr. Bean. Et ceci est un... Maintenant, il joue Maigret pour la BBC. Et voici donc un extrait. Je suis un petit peu inquiet parce que j'ai l'impression vaguement que le passage à PowerPoint me met l'intégralité de la vidéo, mais j'espère que non. Donc ce sketch s'appelle No One Called Jones. Ah, merde, c'est ça.
All right, come on, settle down, please. Answer your names. Anus. Bandit. Bottom. clitoris? Where are you, clitoris? Doudou.
Ouais. Bon, ça, je vais avoir des problèmes pour la suite parce que j'ai un problème de passage d'une à PowerPoint, donc j'ai des extraits qui sont réduits dans Keynote pour savoir les questions techniques et qui ne sont pas réduits dans PowerPoint. Bon, c'est pas grave. Donc je passe assez rapidement. Voilà. Cette question donc de l'utilisation des mots dans la langue, chez Rowan Atkinson, il va l'utiliser pendant tout son sketch. C'est ça que je peux préciser. Vous pouvez le voir sur YouTube. C'est un sketch dans lequel il utilise évidemment tous les noms sont No One Called Jones, donc ils portent tous des noms invraisemblables, dont un qui s'appelle I'm a Prick. Et comme il fait toute sa liste, ça fonctionne extrêmement bien. Ça pourrait être traduisible. Fondamentalement, ce qui est intraduisible dans ce sketch, c'est pas le texte lui-même, c'est le professeur. C'est tellement britannique qu'on a du mal à imaginer comment un humoriste français pourrait reprendre ce personnage très précis, qui est tellement anglais, qu'on a du mal à le projeter dans un autre univers que celui de la public school anglaise, ou de l'université anglaise, extrêmement street des années 1970-80. Quoi. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait finalement culturel, même si la traduction linguistique est parfaitement possible à tout instant. Je voulais montrer donc ce texte-là qui est un... Oh là 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 là, le passage est affreux, je suis confus. Donc, j'ai quand même... Non, je vais pas faire d'expérience, pas grave, j'aurais dû vérifier avant. Donc, ça c'est un extrait de Shakespeare, et c'est dans Henri V, c'est le moment où Alice fait répéter à Catherine, la princesse française qui va aller épouser Henri V, elle lui fait répéter les mots français. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte originel de Shakespeare, toute la scène est en anglais. Ce que vous avez là, c'est le texte original de Shakespeare. Il est en français. Dans la version que vous connaissez maintenant d'Henri V, le texte est en anglais. Mais l'époque de Shakespeare est une époque ambiguë dans laquelle la langue française est très bien manipulée à la cour et donc il n'y a pas de problème, on comprend ce genre de blague. Et tout fonctionne dans ce texte sur, finalement, l'ambiguïté du mot foot et du mot count, qui est forcément le foutre et le con dans la langue française et qui est perçu comme ceci chez Shakespeare. Et la princesse refuse donc de prononcer ces deux mots qui sont vulgaires et qu'on ne peut pas imaginer dans la bouche d'une princesse. Voilà. Je ne voudrais prononcer ces mots devant la seigneur de France pour rien au monde. Mon Dieu, le foot et le comte. Voilà. Alors, je vais maintenant arriver à des questions qui portent à la traduction et qui sont autour justement de que même un lecteur aujourd'hui anglais peut ne pas comprendre. Et là, je suis très inquiet, je ne sais plus du tout comment j'ai monté. Et je voudrais montrer une séquence des Marx Brothers. Qui est celle-ci? Ah, bon.
Now, here are the contracts. You just put his name at the top and you sign at the bottom. There's no need of you reading that because these are duplicates.
Yes, a duplicate. Duplicate, Senator.
I say they're duplicates.
Oh, sure, it's a duplicate, Senator.
Don't you know what duplicates are?
Sure, there's five kids up in Canada.
Well, I wouldn't know about that. I haven't been in Canada in years.
Voilà. Bon. Donc, le texte. C'est assez formidable parce que je pense qu'un Anglais aujourd'hui ne peut pas comprendre, y compris cette chose-là. Donc, ça donne ceci. Do you know what duplicates are? Sure, those five kids in Canada... I wouldn't know about that. I haven't been in Canada for years. Bien. En fait, Chico fait la confusion entre duplicates et quintuplets. Donc, décuplés. Parce qu'en 1934, et ce film date de 1935, naissent les premiers quintuplets viables au Canada. Ce sont les sœurs Dionne. Voilà, j'ai les prénoms devant moi, mais je ne vais pas vous les donner. Voilà, ce sont les premiers quintuplets connus à avoir survécu au-delà de la petite enfance. Et donc, on ne parle que d'eux. On peut dire que l'année 34 est consacrée aux quintuplets. Et donc, quand il dit, vous avez duplicates, sure, I know what duplicates are, Five Kids in Canada. C'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse comprendre. Et donc, le traducteur français qui fait les sous-titres, bah, il fait ce qu'il peut.
Now, here are the contracts. Hop. You just put his name at the top.
Et voilà, et il fait ceci. Ce sont des doubles. Vous savez ce que c'est ? Des jumeaux, quoi, comme au Canada. Il y a longtemps, je ne suis pas allé au Canada. Bon, très bien. Ce n'est pas si mal. Je vous montre un autre extrait un tout petit peu plus loin, qui est celui-ci.
Now it says the party of the second part should be known in this contract as the party of the second part.
Well, I don't know about that.
Now what's the matter?
I don't like it the second party either.
Well, you should have come to the first party. We didn't get home till around 4 a.m. I was blind for 3 days.
Bon, c'est super. Donc, ben voilà, le mot party, qui n'a pas le même sens en anglais et en français, et donc forcément, le traducteur est bien embêté, et il fait ceci. Le deuxième en cause dans ce contrat sera dénommé le deuxième en cause, je ne sais pas. Qu'y a-t-il maintenant ? Je n'aime pas le deuxième en cause. Qui vous dit que lui vous aime ? Pas mal. Et enfin, dernier extrait, qui est à mon avis le truc le plus drôle qui soit dans tout ce film.
Yes. Hey, wait. What does this say here, this thing here?
Oh, that's the usual clause. That's in every contract. That just says, if any of the parties participating in this contract are shown not to be in their right mind, the entire agreement is automatically nullified.
Well, I don't know.
It's all right. That's in every contract. That's what they call a sanity clause.
You can't fool me. There ain't no sanity clause.
Voilà, je pense que vous la connaissiez, mais ça fait rien, c'est toujours bon de la revoir. Bon, alors, elle est évidemment impossible à traduire, n'est-ce pas ? Parce que, bon, d'abord, il faut l'accent italien, il faut connaître Santa Claus, et voilà. Donc, il n'y a pas de Père Noël, c'est vrai, il n'y a pas de Père Noël. Mais comment traduire ça ? Eh bien, voilà, c'est ce qu'on appelle une clause sanitaire, dit le traducteur, et ça donne « Je ne suis pas idiot, il ne s'agit pas de sanitaire ». Bon. C'est pas mal. Daniel Levin Baker, qui est notre plus jeune membre de l'Oulipo, avait proposé comme traduction c'est une clause de santé mentale. Je ne suis pas idiot. Il n'y a pas de santé mentale. C'est bien aussi. Voilà. Alors c'est une transition vers la dernière partie, qu'il me reste un tout petit peu de temps à faire. C'est me traduire moi. Parce que Daniel a traduit certains de mes textes. Alors, il y a juste un premier texte qui est intraduisible, mais ça, je le sais. Et donc, c'est un extrait des Amnésiques. Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, qui est déjà un titre assez compliqué à traduire et qui a été traduit par les Grecs par « Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement », ce qui est très éloigné quand même du texte original, mais ce n'est pas grave. Et donc, ce sont des questions, à quoi tu penses ? Et le locuteur répond toujours une phrase différente. Celle-ci n'est pas traduisible en grec. Bon, elle n'est pas d'une élégance folle, mais surtout, elle est intraduisible. Et je voulais passer à un deuxième texte, qui est un texte qui est extrait d'un livre qui s'appelle Quelques mousquetaires. Dans Quelques mousquetaires, on a affaire à un personnage qui range sa bibliothèque et qui, en rangeant sa bibliothèque, se rend compte que les livres ont subi un déplacement qui est un déplacement qu'on peut appeler numérique, mais dans la langue. C'est-à-dire que, par exemple, il a le zéro et l'infini, c'est devenu l'unité et l'infini. Il a les trois mousquetaires, c'est devenu les quatre mousquetaires. Il a mémoire d'une jeune fille rangée, c'est devenu mémoire de deux jeunes filles rangées. Donc, tout ceci fait que sa bibliothèque a beaucoup changé. Il devient fou, d'autant plus qu'il commande une pizza 4 saisons, qu'il en soit une 5 saisons. Et tout commence à délirer comme ça dans sa vie. Et vers la fin, donc, le langage lui-même qu'il utilise se déplace vers un univers qui n'est plus du tout compréhensible par personne. Et donc, il s'est remis à lire l'Iliade et le Onze. Donc, évidemment, vous voyez ce qui se passe. J'en suis au moment où les Aquédeux font le siège de 4. Du 101, toujours du 101. Pourquoi tant de haine plus 1 ? Bien. Donc Daniel, qui aime s'imposer des choses compliquées, a décidé de le traduire. Et il écrit ceci. Il n'y a pas façon fidèle et attrayante de traduire l'Oonzée, c'est-à-dire l'Odyssée plus 1, et de là jusqu'au point où la fin anglaise discute de différents livres et prend une toute nouvelle forme de réflexion personnelle. C'était peu orthodoxe et abscon, mais le texte original l'est aussi. Merci. Les unités opérationnelles de signification ici sont phonétiques et non lexicales. Alors pourquoi ne pas devenir fou en même temps que le narrateur ? Et alors pourquoi le traduire littéralement ? Pourquoi combattre la contagion selon ses propres termes ? C'est le seul moyen de rester à flot alors que le narrateur s'enfonce de plus en plus dans son jeu de chiffres et le seul moyen de conserver l'esprit d'absurdité savante qui rend l'histoire contagieuse, pour ainsi dire, au départ. Et donc ce que fait Daniel, c'est qu'il prend James Joyce et One Painful Case, qui est traduit en français par un cas douloureux ou parfois autrement d'ailleurs, un cas sensible parfois. Et d'ailleurs, dans le recueil, c'est dans The Dubliners, les gens de Dublin, il y a une nouvelle qui s'appelle The Dead, qui est traduite de deux façons. Le titre est traduit soit Le Mort, soit Les Morts. Et c'est vrai que bon, c'est un choix. Voilà. Et donc ça donne ceci. I've just finished two painful cases, and I feel, in a way I feel Mr. Duffy and I two are the same, etc. Vous voyez, donc là, il joue sur tout à fait autre chose. Et voilà. Alors, ben, j'ai réussi à faire dans les délais en accélérant un tout petit peu. Et je voudrais rappeler une anecdote sur la traduction qui est finalement une assez bonne conclusion. Peu de temps après avoir quitté son poste, Jimmy Carter, dont peut-être on a oublié qu'il a été président des États-Unis, mais c'est quand même son cas, il a prononcé un discours d'ouverture dans une université japonaise. Et comme tous les discours américains, ça commence par une blague. Et alors la salle éclate de rire à la traduction du traducteur japonais. Et à la fin, il va voir le traducteur, lui dit « Mais ma blague est marrante, mais je ne pensais pas avoir une telle réaction. Comment vous l'avez traduite ?» Et le traducteur lui dit « Eh bien écoutez, j'ai seulement dit à l'auditoire, le président Carter raconte une blague, tout le monde doit rire. » Voilà, je vous remercie. Bon, j'ai fini à 15h exactement. On a 3 minutes pour des questions, 4 minutes. Je sais qu'il faut que je libère quand même à 5. Donc Eh bien, merci beaucoup.